Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. 7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Christiane Taubira.
Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour Madame Martichoux.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. La Guyane est votre département, vous y allez régulièrement, vous en venez d'ailleurs tout juste. Vous aviez senti monter cette colère? Vous aviez d'ailleurs alerté les autorités sur le climat?
Oui, incontestablement, mais depuis de nombreuses années, bien entendu, et puis ces dernières années, ces derniers mois également. Mais oui, nous l'avons senti monter, mais nous l'avons surtout vu venir. Cette colère sur des revendications différentes, séparées,
on va
dans des milieux différents, mais voilà, elle était perceptible, pas seulement dans l'air.
On va y venir, mais d'abord sur les acteurs, parce que c'est vrai que les auditeurs, la métropole d'ailleurs généralement, a découvert le collectif des 500 frères, en cagoulé, tout en noir, impressionnant. Qui se cache derrière? Des miliciens ou des citoyens qui veulent lutter de cette façon-là, assez théâtrale, contre les injustices dont on va parler dans un instant?
Alors ce n'est pas à moi de le dire, bien entendu.
Vous les avez rencontrés?
Non, je ne les ai pas rencontrés en tant que tels. J'avais rencontré l'un d'entre eux parce que il y a peut-être 2 ans, j'étais encore garde des Sceaux, il m'avait demandé une rencontre au nom de son association pour traiter des questions de violence, évidemment en relais avec le ministre de l'Intérieur. Nous en connaissons quelques-uns, bien entendu. Ce sont des personnes, ce sont des jeunes pour certains d'entre eux, ceux que nous connaissons, notamment les leaders, qui sont identifiés parfaitement dans la société. Mais dans le collectif en tant que tel, c'est à lui de se définir. Mmh. C'est à lui de se définir. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas connues, ce n'est certainement pas à moi de
ce sont des de interlocuteurs. Dans le cadre de ce dialogue qui doit maintenant, j'imagine que vous y êtes favorable, être instauré, ce sont des interlocuteurs comme les 37 syndicats réunis par l'UTC.
Alors, ils sont des interlocuteurs dans la mesure où ils font partie des collectifs. Maintenant, ce n'est pas à moi de définir la délégation de ceux qui vont discuter avec les représentants de l'État. En tout état de cause, il faut que les élus s'en mêlent. Il y a 4 parlementaires en Guyane, il y a un président d'association des maires, il y a un président de collectivité territoriale.
Ils sont
trop peu impliqués, d'abord parce qu'ils subissent une défiance générale, mais je pense pour ma part que même si cette défiance est fondée sur des éléments objectifs ou sur une perception, ce sont ces élus-là qui, dans la démocratie, doivent être des interlocuteurs.
Ce sont les élus qui doivent prendre la main. Est-ce qu'on peut dire que cette région, ce département a été abandonné par la République, comme on l'entend depuis quelques jours?
On ne peut pas dire les choses de façon aussi sommaire. Il y a des difficultés. Ce qu'il faut que l'État comprenne, mais pas seulement l'État, que les Guyanais aussi comprennent, c'est qu'on ne peut jamais avoir le dernier mot contre la géographie. La Guyane est en Amérique du Sud. La Guyane a plus de 500 km de fleuve de frontière avec le Brésil et avec le Suriname. Il y a une réalité de circulation sur le continent. Donc il y a toute une série de problématiques qui sont liées évidemment à la réalité territoriale, avec ses richesses minières, ses richesses forestières, sa biodiversité, la réalité maritime avec une immense zone économique exclusive et de la pêche, y compris illégale, qui s'y pratique, comme l'orpaillage illégal se pratique dans la forêt. Il y a évidemment, je viens de le dire, cette circulation, mais il y a aussi des échanges culturels et il y a cette réalité aussi sociologique dans la société guyanaise. Bon, parce que vous parlez des délégations, des représentants, etc., des porte-parole de ceux qui ont participé au dialogue, mais il y a surtout ceux qui assurent la mobilisation. Et c'est une mobilisation qui est sur l'ensemble du territoire.
Et c'est une mobilisation qui s'adosse à quoi? À une insécurité record, à un chômage 2 fois plus élevé qu'ici, en métropole, à 8 élèves sur 25 seulement qui trouveront du boulot. Notre ami François Langlais en a parlé ici même hier. Il y a de l'orpaillage clandestin, vous l'avez dit, il y a de la drogue, il y a une situation catastrophique dans ce département.
Il y a un potentiel phénoménal, donc il y a un paradoxe terrible parce qu'il y a un potentiel phénoménal. Et puis il y a effectivement ces chiffres qui disent bien cette insécurité qui est générale, mais l'insécurité, ça n'est pas juste une question de criminalité, c'est aussi toute une...
Elle existe.
Incontestablement.
Elle existe de façon
explosive. Il y a presque 50 homicides par an, ça veut dire presque un par semaine. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible.
Quel remède.
Et puis ça se fait avec une violence gratuite. Cela se fait, bon, parce que manifestement, il y a de la circulation d'armes, il y a de la circulation de drogue, nous sommes sur la route des cartels. Donc il y a toute une série, ça revient à ce que je disais sur la géographie tout à l'heure. Donc il y a toute une série de difficultés. Mais il ne s'agit pas non plus de faire comme si ce territoire, c'était le Far West. C'est un endroit où les gens travaillent, où les gens étudient, où les gens vivent, où les gens se battent, où les gens ont du courage, et où les gens, en ce moment, sont en train de se mobiliser.
On entend bien, il y a du potentiel énorme.
geste d'unité et d'interculturalité, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il ne faut pas réduire ce mouvement à des revendications sur l'insécurité. Elles sont majeures, mais les gens savent aussi que cette insécurité a des causes, et ils savent aussi qu'il faut travailler pour éviter les causes de l'insécurité
de demain.
C'est
ce qu'on dit d'ailleurs depuis 48 ans, mais François Hollande avait proposé en 2013 un plan d'avenir avec à la clé quand même des investissements publics extrêmement lourds. Il n'a pas été signé, il n'a pas été mis en œuvre. Pour nous qui découvrons cette réalité, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'est le président de la collectivité régionale qui doit signer ce pacte d'avenir avec l'État.
Il a joué la surenchère.
À plusieurs reprises, il a dit qu'il signait. Deux jours après, il disait qu'il ne signait pas. Donc voilà, mais les choses sont telles que...
Mais le retard s'accumule.
Mais bien entendu, le retard s'accumule. Ce sont des difficultés pour les entreprises, et notamment les entreprises locales, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Ce sont des difficultés, évidemment, pour les infrastructures, notamment scolaires.
Mais il a joué au plus fort.
Alors, moi, peu m'importe, parce que tout ça, ce sont des péripéties.
Il aurait pu c'est un épiphénomène. Pour une première tranche de 600 millions
entendu,
il y a quelques mois.
Mais bien entendu, Madame Martichou, mais aujourd'hui, on est presque au-delà de ça. L'accumulation des difficultés, la sensibilité de l'ensemble de la population à ces difficultés, la multiplication des initiatives qui se font sur l'ensemble des territoires prouve qu'on est bien au-delà de ça. Donc il faudra bien sortir de la crise.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Oui, il faudra en sortir.
Comment ?
Il faudra en sortir. Il faut d'abord des conditions de discussion démocratique et républicaine. Et j'en reviens, parce que moi je n'ai pas fui votre question de tout à l'heure, j'en reviens aux conditions dans lesquelles, si les 500 frères doivent participer aux discussions, il faudra qu'ils le fassent dans un cadre démocratique. Démocratique et républicain. Il y a longtemps que les élus auraient dû leur dire que, notamment dans des relations avec les institutions ou les représentants des institutions, il n'est pas concevable qu'ils ne soient pas à visage découvert. Que ce soit très clair.
Les cagoules.
Parce que mais nous sommes dans une démocratie. S'ils se sentent en danger, qu'ils le fassent savoir. La responsabilité de l'État, c'est de protéger les personnes
ça,
dans la société.
Ça, c'est un prérequis pour que le dialogue s'instaure.
Non, ce n'est pas une question de prérequis, c'est une question de fonctionnement de la démocratie, et c'est une question de représentation aussi. Nous avons un problème avec la jeunesse. Il y a des adolescents, des pré-ados qui sont livrés à eux-mêmes et qui constituent potentiellement un danger important. Il y a l'importance aussi de la représentation, des images qu'on leur envoie, des références qu'on leur donne, des modèles qu'on leur met sous les yeux. Et je disais tout à l'heure qu'il faut lutter contre l'insécurité d'aujourd'hui, il faut traiter les causes de l'insécurité de demain, et ces modèles en font partie.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut au-delà de cette nécessité d'avoir un dialogue en enlevant les cagoules, etc., dans un registre démocratique, qu'est-ce que doit faire l'État tout de suite ? D'abord, est-ce que vous avez compris que la ministre Erika Barèche refuse de venir dans un premier temps ?
Alors, la question est de savoir si on négocie, sur quoi on négocie. Il faut incontestablement un cadre politique pour négocier. Mais il demeure que nous sommes à la fin d'une législature. Et que ce qui compte, c'est que cette négociation soit sérieuse et solide. C'est-à-dire qu'elle ait un caractère pérenne, qu'elle survive à la fin de la législature. Et pour ça, il faut effectivement engager l'appareil d'État au plus haut niveau. L'appareil d'État au plus haut niveau, c'est bien entendu le cadre politique, c'est-à-dire effectivement l'engagement gouvernemental ou ministériel, mais c'est surtout l'engagement de la haute administration d'État. C'est ça qui peut assurer la continuité d'un engagement qui serait pris aujourd'hui en fin de législature et qui est sur lequel serait apposée des signatures.
Qui incarne la haute administration d'État ? Qui l'incarne ?
Les structures de l'État, l'appareil d'État
préfecture.
N'est pas une découverte.
Mais...
Non, la préfecture, c'est l'appareil d'État local, défense centrée. Mais lorsque France Stratégie participe,
ça, c'est Michel
de
Gaillel,
la délégation, participe de la délégation, si France Stratégie s'engage, France Stratégie qui travaille sur les politiques publiques de l'État, il est évident qu'un tel engagement est un engagement sérieux.
Oui, mais la population ne l'a pas perçu comme ça, ça a son importance.
Mais c'est normal, mais ce sont des choses qu'on doit leur expliquer.
Au moindre fait divers, Madame la Ministre, Madame Taubira, le chef du gouvernement, parfois même le président se déplace. Là, vous ne comprenez pas que les Guyanais aient senti comme un mépris le fait que le gouvernement, dans un premier temps, ait dit on va envoyer une délégation, si autorisée soit-elle.
Non, mais on peut jouer à ça. De toute façon, ça n'est plus à l'ordre du jour, puisque le Premier ministre a annoncé la venue d'une délégation ministérielle.
Lui, par exemple,
donc,
c'est pas
le débat n'est pas à l'ordre du jour.
C'est pas l'enjeu.
Non, mais c'est pas... Attendez, on est en fin de législature. Je veux dire que ce malade ministre aurait pu débarquer, on aurait pu trouver des gens pour dire « Qu'est-ce que vous venez faire ? Que valent vos signatures aujourd'hui ?» On aurait pu entendre ça. Donc moi, je répète qu'il faut poser très clairement les conditions, effectivement. Il se trouve que cette revendication se place maintenant à la fin de la législature.
Un mois de la fin de...
Donc, on peut tromper les gens, on peut leur dire, on fait une tournée de ministres, on vous signe des choses, et le ministre qui suivra demain dira qu'il n'est pas engagé par cette signature-là. On peut jouer à ça. Moi, je suis très attachée à ce que les solutions apportées soient des solutions crédibles, solides et durables. Et pour ça, oui, il faut l'engagement ministériel. Oui, il faut l'engagement gouvernemental. Oui, il faut de la présence de ministres. Mais il faut surtout impliquer la haute administration d'État pour qu'elle soit tenue à la continuité des engagements qui auront été pris.
Vous accepteriez une mission ?
Pourquoi faire ?
Pour régler le conflit.
Mais ça dépend d'abord qui la demanderait, la demanderait. Je suis chez moi, j'ai été impliquée à plusieurs reprises dans des domaines qui ne sont pas les miens, par exemple la création de l'université, en tout cas l'autonomie de l'université de Guyane, une université de plein exercice. J'ai été sollicitée, j'ai fait le travail qu'il fallait. Donc voilà, c'est chez moi, je suis très attachée, je connais bien. Et puis je peux vous dire que j'aime ce qui se passe. Il y a de la dignité. Il y a, je le disais, de l'interculturalité, ça a un sens chez nous. Il y a une implication de la totalité du territoire. Il y a des initiatives partout. Il y a de la convivialité. Les gens vivent ensemble, discutent ensemble, se disputent, travaillent ensemble, s'engagent ensemble. Et aujourd'hui, il y aura de très belles images parce que la jeunesse aussi est engagée. Elle est sur le terrain. Et donc, vous verrez que ce sera une très, très belle marée humaine.
Un mot de la campagne électorale, Christiane Taubira. Votre candidat, Benoît Hamon, a en quelque sorte poussé un coup de gueule dimanche soir. C'était sur France 2 ou 20h, contre tous ces ministres qui lui plantent un couteau dans le dos. Il a eu raison ?
Sans aucun doute. La politique doit être lisible pour les citoyens. Et il faut que les citoyens comprennent les positionnements des uns et des autres.
C'est pas lisible ? Les ministres qui rallient Macron, c'est illisible, c'est confusionnant, comme on dit ?
Alors, c'est très joli, confusionnant. mais moi, je pense que lorsqu'on a une longue vie politique, d'un engagement clair sur des idéaux, sur des projets, sur des programmes, qu'on a une action politique, c'est-à-dire que vis-à-vis des citoyens, on identifie très clairement les politiques publiques que l'on met en œuvre, se retrouver tout d'un coup les adhérents enthousiastes d'un mouvement ni de droite ni de gauche, moi, je trouve ça plutôt perturbant, même si ça ne me perturbe pas, moi, personnellement.
Benoît Hamon, qui a lui-même accrédité l'idée que Manuel Valls pourrait aussi, lui, rallier Emmanuel Macron avant le premier tour. Ça vous choquerait que votre ancien Premier ministre ne rallie pas le vainqueur de la primaire ? Ce serait déloyal.
D'abord, mes sentiments sont absolument sans intérêt pour tout le monde, y compris pour moi, en la matière. Politiquement, il n'y a pas matière, parce que moi, je ne sais pas quelle est la convergence politique qui justifierait ce ralliement. J'ai entendu des divergences de positions sur des choses essentielles, la laïcité, qui est une valeur structurante dans la société. On en fait un élément de concorde et d'inclusion ou un élément de discorde. Alors, je ne sais pas qui va rejoindre qui sur cela. Donc, pour moi, il n'y a pas de commentaire politique à porter. Et je ne commente jamais les positionnements tactiques.
Ça ne vous choquerait pas ?
Mais peu importe, je répète, mon sentiment ne compte pas, là.
Et politiquement, vous dites que...
Je viens de dire que je ne vois pas la convergence politique. Je ne vois pas la convergence politique. Voilà. Donc je pourrais la commenter si elle existait. Merci. Et la tactique ne mérite pas commentaire de ma part.
Merci Christiane Taubira d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Merci à vous.
On ne peut pas dire que la France a abandonné la Guyane, nous dit Christiane Taubira, qui ajoute qu'on ne peut pas en revanche ignorer la réalité de la géographie. Concernant les 500 frères, ils devront discuter à visage découvert. Et c'est à la haute administration de la République française de s'impliquer dans l'avenir de la Guyane. Merci à l'une et à l'autre. L'entretien est à retrouver en intégralité sur le site rtl.fr.